Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Agnès Dauban. Bonjour.
Bonjour.
Ah, Agnès, est-ce que je t'ai déjà eu en interview moi-même ?
Non, jamais.
Non, jamais. Mmh. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu travailler tes voix déjà, moult fois. Et oui, mesdames et mesdames, Agnès nous fait tous les jingles d'RDWA, enfin une bonne partie en tout cas. Hein.
Ouais, pas tous.
Mais on peut le dévoiler quand même depuis 4 ans que les gens cherchent qui c'est. Ben, c'est toi.
C'est moi, la voix.
Agnès, eh bien principalement, nous allons présenter ton spectacle que tu vas jouer au Théâtre de Die dans quelques temps.
Le 12 décembre à 20h.
L'autre et moi. Ouais. Mais est-ce que l'on pourrait avoir aussi un petit peu plus ton parcours et puis tes autres spectacles et puis peut-être même qu'on arriverait comme ça à croiser à tous ces moments où on te voit finalement.
Alors, l'autre et moi, ça a commencé il y a environ 4 ans l'aventure. De l'autre et moi, c'était à cause, je dirais, ou grâce, à cause de deux contes qui venaient sans cesse me taper sur l'épaule, là. Je me suis mise à raconter, moi, il y a à peu près 15 ans, et donc ils n'arrêtaient pas de venir me taper sur l'épaule, et j'arrêtais pas de les raconter, d'avoir besoin de les raconter. Quand j'avais envie de raconter quelque chose, je racontais ces contes-là, et au bout d'un moment, j'avais pourquoi toujours eux ? Et qu'est-ce qu'ils me racontent ? Du coup, je me suis retroussée les manches. J'ai rencontré une partenaire, Muriel Masson, qui habitait dans le Diwa à l'époque, qui faisait du spectacle, voilà, diverses choses. Et je suis partie écrire un entremêlement de ces deux contes pour n'en faire plus qu'un et pour mettre en évidence justement ce que racontaient ces contes et mettre en évidence aussi le pourquoi il me touchait et mettre en évidence aussi le fait qu'ils sont agissants. Voilà.
Quels sont ces contes ?
Ah oui. Alors en fait, quand j'ai dit deux, en fait, il y en a trois. Le père de tous les contes, c'est celui par lequel j'ai commencé à raconter des histoires. C'est un conte de Yannick Jolin, l'histoire d'une chenille qui bave, qui a envie d'autre chose, mais c'est pas quoi, puis elle bave. Elle est amoureuse d'un mille-pattes. Et le mille-pattes, il ne sait pas quoi faire devant cette chenille qui bave. Donc, il fait tout ce qu'il peut. Mais bon, la chenille, irrémédiablement, elle bave et elle va se transformer d'abord en chrysalide qui ne sait pas ce que c'est que ce gros tas gris. Et ensuite, elle va se transformer en papillon. Et là, lui, il dit, ça, c'est pas moi, chenille. Et voilà.
Et donc, voilà, lui-même était amoureux quand même au début.
Ben oui, il était amoureux jusqu'au bout. Après, c'est un amoureux malheureux parce qu'il ne reconnaît pas sa chenille. C'est un papillon, il ne peut plus la reconnaître quand elle est papillon.
Ouais.
C'est un drame pour le mille-pattes et c'est l'histoire d'une transformation pour la chenille. Mais le mille-pattes n'a pas fait cette transformation-là parce que c'est un mille-pattes.
Premier conte, donc.
Ça, c'est le père de tous les contes que je ne raconte plus dans ce spectacle. Alors, au début, ça y était dans ce spectacle. Il est sous-jacent.
C'est pour ça que tu dis le troisième, qui en fait. Voilà, tu commences par le troisième qui n'est plus là. En fait.
Voilà, c'est l'esprit de tout ça. L'histoire de la transformation. Ce conte-là, si tu veux, il vient raconter comment celle qui raconte les histoires, c'est la chenille qui va se transformer en parpaillon, en tout cas qui va nécessairement se transformer. Donc les deux autres, c'est. Il y a l'histoire de Grismine, c'est tiré de L'homme jamais content d'Abby Patrix. C'est l'histoire d'un dépressif chronique, voilà, qui est un gros nuage au-dessus de sa tête et c'est Grismine, c'est très blues comme conte. Grismine, finalement, tout va disparaître autour de lui parce qu'il veut tellement plus rien, de manière périodique et de plus en plus appuyée, que voilà, tout disparaît autour de lui et donc il se retrouve seul au milieu de rien. Et là, je ne vous raconte pas la suite parce que là... Et l'autre conte, donc le deuxième qui est vraiment présent dans le spectacle, c'est l'histoire d'une femme qui a envie d'ailleurs, qui habite ici, mais qui a envie d'ailleurs. Voilà, donc elle part vers ailleurs, mais elle va se retrouver ici, mais en croyant qu'elle est ailleurs. Voilà.
Nous parlons de L'autre et moi, le 12 septembre au théâtre de Die. Eh bien, je pense que c'est un bon synopsis, comme on dit, puisqu'il ne dira rien d'autre que cela. Mais justement, Agnès, est-ce que tu pourrais nous parler de ton lien avec le conte ou comment est-ce que tu commences ta profession de conteuse ? Pourquoi le conte d'abord, tiens ?
Alors, profession de conteuse, je la revendique pas déjà, parce que je pense que je suis avant tout, je fais du théâtre et le conte est passé par là, du coup je l'ai pris parce que je trouve ça une bonne matière à chevaucher. Et après, comment j'en suis venue au conte ? Et bien justement, avec l'histoire de la chenille, du mille pattes, c'est une histoire que j'avais entendue, elle m'a marquée, je l'ai racontée à un copain comme ça un jour en balade. Et puis ce copain revient me voir 5 ans après, on se rebalade ensemble et il me dit « Ah, t'en souviens de cette histoire que tu m'as racontée ?» Et pif, ça tape en plein dans ce que j'étais en train de vivre ou de ressentir. Ça mettait des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Du coup, je me suis dit « Putain, c'est balèze les contes !» Du coup, je me suis mise à la raconter parce qu'elle m'était revenue en pleine face et qu'elle s'était invitée, quoi. Puis de là, j'en ai découvert d'autres et puis de fil en aiguille, je me suis mise à raconter plein d'histoires.
Tu t'es mis à en chercher du coup ?
Je cherche des histoires, ouais. Mais en chercher comme... J'en ai lu plein, j'en ai pas retenu tant. Je me laisse plutôt alpaguer par les contes que ce que je leur mets la main dessus finalement. C'est plus eux qui me mettent la main dessus.
Et que faut-il pour qu'ils t'aient mis la main dessus ?
Bah, comme je te disais, par exemple, pour cette histoire de la chenille, c'est un hasard, quoi. Elle me plaît, je la raconte, elle me revient dessus à un moment où ça fait sens. Par exemple, des fois, je lis plein d'histoires. Il y en a une qui me semble, tiens, qui me parle un peu plus que les autres. Je ne sais pas encore pourquoi, mais elle me parle plus que les autres. Du coup, celle-là, je vais me mettre à la raconter à Baptiste, à Paul, à Jacques, à Lulu... Et en fait, au fur et à mesure que je la raconte, je vois que ça fait écho chez celui chez qui je la raconte aussi. Du coup, je me dis, tiens, et en fait, elle me parle de plus en plus, cette histoire. Du coup, bah, je la raconte à un plus grand auditoire, et puis un plus grand, puis un plus grand, puis après, ça fait partie du répertoire. Mais je ne les choisis pas vraiment, en fait. C'est plus celles qui me choisissent, on va dire, ou c'est une rencontre. C'est plus une rencontre.
Ouais. Ça correspond à un moment pour toi.
Voilà, puis, ça correspond à un moment. Et ça fait écho. Là, par exemple, quand je racontais la chenille, après, il y a eu plein d'histoires de transformation, de femmes qui voulaient aller voir ailleurs. Et bizarrement, dans ma vie, il se passait quand même des choses qui allaient aussi dans ce sens-là. Donc, oui. C'est pour ça aussi que le spectacle L'autre et moi, ça raconte... Le fait que les histoires agissent nous aide à nous transformer et nous transforme aussi. Voilà.
Tu t'es présentée comme comédienne de théâtre. Moi, quand je t'ai rencontrée pour la première fois, autour notamment du projet RDOA, tu étais principalement, pour moi, Philomène la raconteuse.
Ouais.
Donc, tu as quand même beaucoup raconté. Et tu as beaucoup choisi ta matière pour la mettre en scène. On pense à des acteurs de théâtre qui vont plutôt avoir un metteur en scène, suivre tel ou tel type de texte, mais pas être totalement maître.
Ouais, ouais.
Alors, le lien avec Philomène et puis choisir sa matière.
Alors, Philomène, déjà, c'est un nom qui est venu comme ça en faisant des spectacles. Je fais des spectacles des fois pour les enfants, des classes découvertes et tout ça. On monte des petits spectacles vite fait. Touc, touc, touc. Puis il y a Philomène qui s'est invitée. Je me suis dit, tiens, elle est sympa celle-là, donc je vais la garder.
Ça, c'est un personnage d'animation.
Voilà, c'est un personnage d'animation. Et puis, du coup, après, pour raconter les histoires, comme je me suis mise à raconter des histoires en ayant un accent, je ne savais pas pourquoi j'avais cet accent. Bon, ben, je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai un accent. Ben, quand je raconte des histoires, ben, je le garde, je me laisse faire. Puis, je vais m'appeler Philomène, tant qu'à faire, puisque ce n'est pas mon accent naturel. Voilà. Et après, quant à choisir ma matière, ben, c'est justement parce que je pense que de raconter des histoires, c'est aussi raconter une part de quelque chose qu'on ressent ou qu'on peut vivre. Ou... L'histoire, elle est là comme métaphore de ce qu'on peut ressentir ou vivre. Et que la proximité du conte, c'est comme une discussion avec des gens. Donc je viens ici pour témoigner de quelque chose qui me touche. C'est forcément personnel, quoi, pour moi. Tout en ayant le conte et puis le théâtre que j'ai pratiqué, le clown permet une sacrée distance pour pas qu'on tombe non plus dans le pathos, le psycho truc. Parce que comme je fais du clown aussi, ou que j'en ai fait, ou en tout cas que c'est une matière qui m'intéresse, c'est le fait de prendre au sérieux, le fait de ne pas se prendre trop au sérieux.
Le conte ou la technique de conte, je disais, je ne revendique pas ma profession de conteuse, mais est complètement imbriquée dans ton travail théâtral.
Ouais.
Tout le temps.
Ouais.
Bah, un petit historique, alors qu'est-ce que tu as fait en théâtre ?
Le dernier truc que j'ai fait en théâtre, c'était avec une compagnie à Aix, la compagnie Débris d'art, c'était du théâtre masqué. C'était l'année dernière, en septembre.
Ah, donc quand même t'en fais encore.
Ouais. Voilà, c'était une pièce de Grunberg, une pièce pour enfants. Ça s'appelait La Bataille, voilà, sur le peuple de l'eau, le peuple du soleil qui n'arrive pas à s'entendre. C'était une sorte de Roméo et Juliette pour les enfants, sous fond d'extrémisme religieux. Voilà. Avant ça, quand je suis arrivée dans le Diwa, j'étais avec Mathieu, qui était mon compagnon de jeu et mon compagnon de vie. Et notre troupe s'appelait les Tourneboules. Et donc nous, on faisait vraiment du théâtre avec Mathieu. Le premier spectacle qu'on ait présenté dans le Diwa, c'était Jules et le chapeau magique. Donc c'était vraiment, là je jouais plein de personnages de théâtre, c'était une mise en scène de théâtre à partir d'un album jeunesse. Sinon, on avait fait deux cabarets avec toute une troupe avec laquelle j'étais dans le sud, des amis et compagnons de jeu. Et voilà, avec la compagnie Débris d'art, j'ai fait deux autres créations, celle qui est sur Aix. Donc c'était plutôt sur Aix, en fait, mon passé de...
Oui, tu viens du sud.
Ouais, je viens du sud. Ah, en vrai, je viens du sud.
Mais c'est le midi ici, c'est le midi moins le quart.
Ouais, mais je retrouve pas l'accent, franchement. Des fois, ça me manque.
Et alors, la deuxième chose qu'on entend après tous ces contes, c'est l'enfance. Beaucoup, beaucoup de matière pour les enfants.
Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'enfance de l'art. Non, l'enfance... En fait, j'ai fait de l'animation assez tôt. J'ai passé le BAFA, des choses comme ça. Ça me plaisait parce que c'était un milieu où... il me semblait que c'était un milieu où on jouait. C'était un milieu d'adultes. J'ai peut-être un petit complexe de Peter Pan ou de l'île des enfants perdus, je ne sais pas. Et donc, c'est un milieu où on joue, où on est créatif. Et c'est justement un endroit où on prend très au sérieux le fait de ne pas se prendre au sérieux. Donc, je crois que c'est ça que j'aime bien. C'est ce mélange des deux choses que j'aime dans ce monde de l'enfance. Et puis quand je rentre dans une librairie, je trouve ça... J'aime bien le rayon enfant parce que c'est superbe, quoi. C'est des œuvres d'art, les albums. Du coup, je plonge assez volontiers dans les albums qu'il y a dans les librairies, les bibliothèques, etc.
Pour l'image, plutôt.
Pour l'image, ouais. Et puis du coup, image, imaginaire. Enfin voilà, je trouve que c'est sans fin, quoi. Je trouve que c'est un domaine où on peut bien déployer l'imaginaire. Et bon, je dois être une douce rêveuse et j'aime bien rêver, imaginer des choses. Les enfants aussi, apparemment. Donc,
tu ne fais pas partie des gens qui sont pollués dans leur imaginaire par l'image qu'il leur est proposée ?
Oh, certainement, mais je ne sais pas si c'est pollué. Je dirais que c'est enrichi. J'aime bien voir à partir d'un sujet, d'une matière... toutes les interprétations possibles. Donc dans un album, c'est un auteur ou un illustrateur qui met son interprétation à lui, sa couleur à lui, que j'aurais pas forcément imaginé comme ça, et c'est justement ça qui est bien, c'est que moi justement je l'aurais pas imaginé comme ça.
Donc tu ne perds pas ta part d'imagination?
Non, c'est je pense ça. Pas. Non, je trouve que ça s'enrichit, parce que même quand je travaille avec les enfants, quand on invente des histoires, donc c'est pour ça que j'ai appelé la compagnie la fabrique d'histoires, parce que j'imaginais vraiment un atelier où on s'activait comme ça, les méninges, pour fabriquer plein d'histoires, quoi. Et donc, les ateliers avec les enfants, c'était les fabricants d'histoires, j'avais appelé ça. Et donc, des fois, on se dit, tiens, les enfants, et avec Walt Disney, ou avec, je sais pas, tout, ils voient beaucoup d'images, en fait, les enfants. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de dessins animés, plus que de livres. Et en fait, on s'empare de cette matière-là qui les traverse sans arrêt, les dessins animés, les trucs super drôles, comme les Pixar aussi, enfin des trucs comme vraiment typés, quoi. Et puis, ben, on prend ça, et puis on prend l'histoire originelle, mettons le petit chaperon rouge, si on prend le petit chaperon rouge raconté par Perrault, et puis le petit chaperon rouge, la véritable histoire du petit chaperon rouge, ce dessin animé un peu délirant sur le petit chaperon rouge avec la mémé en skate et tout ça. Qu'est-ce qu'ils en font, les enfants, entre ces deux pôles version. Extrêmes, là c'est quoi leur version à eux? Et ça, ils adorent découvrir qu'eux aussi, ils ont leur version. Puis moi, j'adore aussi, parce que c'est infini.
En quoi ça nourrit ton travail?
Je pense que ça me garde en appétit tout le temps, puis en jubilation, en fait. Je pense que c'est surtout la jubilation là-dedans qui me nourrit, quoi. Le jeu, le sens du jeu, de la jubilation, quoi.
Parlons un peu des autres personnages qu'on peut voir ici et là dans le Diwa. Par exemple, la crieuse publique.
Alors, la crieuse publique, bon, déjà, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un personnage un peu colporteur. Je l'imaginais passer dans différentes communes de la vallée, là, pour colporter les histoires du village d'à côté, les nouvelles, les fêtes qu'il pourrait y avoir et tout ça. Et puis bon, voilà, la vie faisant, les projets et le fait qu'il faille aussi faire bouillir la marmite et tout ça, je ne l'ai pas mis sur pied. Et puis, j'avais vu dans Par vite et revient tard, là, il y avait une adaptation, c'est un roman de Fred Vargas, et il y avait le crieur public. Alors je me suis dit, en fait, ça prend bien, c'est super ce truc. Et puis, le 14 juillet dernier, dans la ville de Die, il y a eu un événement qui m'a vraiment bousculée. Donc, il y avait une manifestation pacifique, bon enfant, sympathique, ou alors exaspérante pour certains, mais bon, pas de quoi en faire un fromage, sur la place de la République. Et puis, il y a eu une démonstration de violence complètement inadaptée à ce qui se passait. Enfin, si tant est que la violence soit des fois adaptée, je crois pas. En tout cas, là, vraiment, c'était complètement exagéré, quoi. Ça m'a bousculé, ça m'a choqué, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas trop les longues réunions, tout ça, pour agir, militer, tout ça. Je tiens pas la route, quoi. J'y vais au début, puis je vois que mon engagement il est pas suffisant, quoi. Je me suis dit il faut que je fasse avec ce que je suis moi. Ben je vais faire la crieuse publique, voilà, parce que là j'ai envie de mettre sur la place publique des choses qui sont peut-être pas dites, et peut-être que si elles étaient dites, on éviterait de se taper dessus, peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que ça va dans un sens que moi, je soutiens plus que le fait de se taper dessus, ou de se mépriser, ou de se taire, ou de maugréer, comme ça. Et du coup, voilà, Marco, de la Droguerie Moderne Théâtre, lui aussi, il avait envie d'agir dans un sens qui soit dans son langage à lui, le théâtre, et le théâtre forum, ou le théâtre de rue. Donc du coup, on a décidé de faire ça ensemble. Alors, on passe sur le marché les samedis. Bon, là, ça fait deux samedis que j'y vais pas parce que j'ai d'autres engagements. Donc on passe sur le marché les samedis. On distribue aux gens des terrasses et puis des gens qui sont dans la rue, sur la place du marché, des papiers. Ils marquent leurs mots d'amour, leurs mots d'humeur, leurs grandes déclarations, leurs intuitions, enfin tout ce qu'ils veulent, quoi. Et puis, on ramasse tout ça et à midi, on les crie sur la place publique. Voilà, c'est aussi pour remettre sur la place publique, je sais pas, c'était pour enlever la chape de plomb qui s'était posée sur cette place de la République à partir du 14 juillet, que moi, j'ai vraiment ressenti comme ça, comme une chape de plomb d'un coup qui nous tombait dessus et que, voilà, envie cette de place, réinvestir les lieux. Quoi.
Oui, c'est ça, qu'elle ne serve pas qu'au marché.
Voilà, qu'elle et serve comme pas parking. Comme, ouais, exactement.
Et tu te mets d'une certaine manière en scène pour ce personnage. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est juste toi?
Ben, c'est un personnage. Mais bon, je me retrouve dans tous les personnages que je fais. De toute façon, je trouve qu'on est multiples. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Le personnage me permet de prendre une certaine distance. Et cette distance que moi, je prends avec moi-même, ça permet au public de la prendre aussi, cette distance. Le fait de ne pas se prendre trop au sérieux, des fois, ça permet de dire des choses de manière plus sereine ou plus décomplexée.
Quel type de public se
au marché
place devant le crieur public. Est-ce que c'est des gens qui restent?
Eh bien, justement, je trouve ça assez agréable parce que c'est un public assez varié. Les premières fois, c'était un public un peu acquis, avec des mots, plutôt des mots d'amour, je vous aime tous, enfin voilà, des choses...
Tu veux dire dans ceux qui ont déposé les textes?
Et qui viennent écouter aussi. Et puis là, dernièrement, eh ben, c'est un public un peu plus large. Ça aussi, y en a aussi qui disent « Vous m'emmerdez, j'en ai marre de voir des babacools et des squatteurs. » Enfin, eux aussi prennent la parole. Et voilà, je trouve ça chouette que tout le monde puisse prendre la parole à travers ce crieur public, ces crieurs publics. Je trouve que là, ça commence à avoir une vraie fonction. C'est pas juste... On fait les choses entre nous, quoi.
Avez-vous censuré des choses?
La censure s'exerce uniquement sur les trucs injurieux nominativement.
On peut être injurieux envers une espèce de vérité toute faite.
Voilà, c'est ça.
Mais pas...
On peut dire putain de bordel de merde, qu'est-ce qui m'a fait chier la vie de merde, je sais pas quoi. Mais on peut pas dire Paul, t'es un sale con.
Pardon, Paul.
Pardon, Paul.
Un autre personnage, Claudine, qui nous vient de Tourcoing.
Alors, Claudine...
On la voit quelquefois. Elle a un triporteur.
Ouais.
Elle monte dessus.
Ouais.
Elle est toujours plutôt bien sapée.
Ouais, c'est un style, quoi.
Enfin, c'est, ouais,
ouais, c'est un style. Il y en a qui trouveront ça vulgaire, peut-être. Hein, mais bon.
Bah, c'est...
Elle est jamais vulgaire, Claudine.
Jamais vulgaire.
Non.
Et puis, quand elle n'a pas son triporteur, c'est un tracteur ou alors...
Ah ouais, elle adore faire des tours en Massé Ferguson. Alors, en fait, Claudine, je disais, on avait fait... quand j'habitais plus dans le sud, dans le Luberon, on était un groupe d'amis, on faisait des cabarets. Donc Claudine, elle est née dans un de ses cabarets, pour mettre l'ambiance, quoi. Mmh. Voilà, waouh, c'est la super positive, quoi. Claudine, elle est tout le temps ultra positive. Elle aime les gens. Elle se reçoit pas mal de coups, je pense, de la vie, tu vois, des trucs. C'est pas toujours facile, quoi, d'être comprise en face.
Parce qu'elle est un peu facile ou un
ben,
peu...
Elle peut être interprétée comme un peu facile, un peu... Trop bon, trop con, quoi, tu vois, comme on dit.
Ah.
Voilà. Mais bon, elle reste intègre à elle-même, quoi. C'est un peu une interprétation de la cagole. La cagole marseillaise.
Oui.
En fait, elle est super sincère, quoi.
Ouais. Ébahie et sincère.
Voilà, ébahie et sincère. Elle est... ouais, c'est ça, elle est naïve. Il y a un côté naïf. Donc voilà, des fois, on peut abuser de cette naïveté. Et moi, j'ai vraiment, avec Claudine... J'avais vraiment envie de défendre aussi cette idée de... C'est un personnage comme ça, c'est pas parce qu'il est comme ça qu'on n'a pas à le respecter, quoi, aussi. Voilà, donc il y avait un truc comme ça. Finalement, je m'aperçois que... Ou alors c'est dans mon dos et je n'entends pas du tout, mais il n'y a pas du tout d'irrévérence, alors que je suis quand même sapée un peu ras-la-touf, comme on dit. Les barésies, les talons un peu écervelés, comme ça... Mais je m'aperçois que quand même, il y a ici, en tout cas, dans le Diwa, alors c'est peut-être parce que les gens sont étonnés de voir ça, mais il y a un certain respect, quoi.
Mais es-tu comprise tout de suite comme étant un personnage ou est-ce que les gens croient encore qu'effectivement...
Non, il y a des gens qui croient que je suis comme ça. Il y a des gens qui croient que je suis comme ça.
Qui voient vraiment Claudine et, donc, ouais, et voilà. De temps à autre, elle vient.
Voilà. Et du coup, je raconte des histoires. Enfin, à chaque fois, il lui arrivait des trucs pas possibles. La dernière fois qu'elle est arrivée à la fête de Radio Diwa, elle n'avait pas de bus, donc elle est arrivée en stop, en tracteur. C'était génial. Enfin, voilà, bon, tout le temps, il lui arrive des trucs comme ça.
Donc à chaque fois, tu t'improvises un nouveau...
J'improvise.
Situation.
Une nouvelle situation. Elle met l'ambiance. Claudine, elle est là pour mettre l'ambiance, pour mettre tout le monde à l'aise. Tu vois, ma table pour la fête de Herdiwa, on se maquillait entre filles aussi. C'était vachement sympa parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour se maquiller. Ben voilà, du coup, voilà, c'est un personnage sympathique. Quoi. Je fais danser les hommes comme qui n'osent pas trop aller danser, tout ça. Ben voilà, je suis chauffeuse, quoi, chauffeuse de salle.
et c'est vrai, c'est marrant. Ça. Tu as rencontré des gens qui... ont été contents de retrouver Claudine et en pensant que c'était vraiment quelqu'un qui revenait de temps à autre.
Je sais pas la part de je sais pas la part de vérité de ce qu'ils me font. Toute manière, ils sont contents de retrouver Claudine. C'est pas Agnès qui sont contents de retrouver là dans cette situation. C'est Claudine. Donc importe qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, c'est une part d'imaginaire qu'ils sont contents de retrouver aussi. C'est comme quand tu re-regardes quand tu relis une BD que t'as aimée, etc., t'es content de la retrouver, quoi. Claudine, c'est pareil, c'est une bonne BD que t'es content de retrouver.
Agnès Dauban, toujours sur RDWA. Est-il d'autres personnages que tu voudrais nous présenter ?
On est nombreux, moi.
L'autre et moi. L'autre avec un S.
Celui-là, il est pas venu depuis longtemps. Elle s'appelle Berthe, au grand pied. Elle a des grosses ranjos du 42, chose du 38. Elle est un peu intemporelle, un peu... Elle a beaucoup de distance avec ce qui se passe autour d'elle. Puis de temps en temps, elle te sort un truc, paf, bien percutant.
Et elle a un peu le menton en avant, parce que là, les auditeurs ne le voient pas. Mais...
Ouais, un peu le menton en avant. Elle a un peu le corps en S, tu vois, comme ça. En fait, je revoyais il n'y a pas longtemps le film Le Bal de Torrescola. Je ne sais pas.
Je ne connais pas.
C'est un vieux film, je ne sais pas de quand il date. Mais... C'est une salle de bal qui traverse les époques, les années. Et c'est toujours les mêmes personnages, sauf que le focus est mis sur, plus sur l'un ou sur l'autre, selon les époques. Et là, il y a vraiment un jeu génial. Donc, je crois que c'est ce film-là qui a fait que je me suis dit... Ah, jouer plein de personnages et c'est un vrai régal, quoi. Voilà, des fois il y a Gaston, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait.
Ah, tu as fait des hommes,
mais parce que Mathieu il est parti avec mon costume de Gaston parce qu'on le partageait. Alors depuis faut que je me retrouve un costume de Gaston pour pouvoir le faire. J'ai un masque, un nez, des lunettes, des moustaches, et c'est un gars sympa, Gaston. Voilà. J'ai animé des ateliers d'écriture avec Gaston. Il m'est arrivé aussi d'aller dans des colloques sur le théâtre. Des trucs sérieux, quoi. Un colloque sur le théâtre, et le thème, c'était le travail. Moi, j'étais allée en Gaston avec des phrases de Coluche un peu dans la poche. Donc, j'assistais au débat d'un air très, très attentif. Oui, mais bon, à un moment donné, je faisais ratterrir tout le monde avec une phrase de Coluche. Tu vois, genre, on dit que les gens cherchent du travail, c'est pas vrai, l'argent leur suffirait. Bon, voilà, des choses comme ça.
Et c'était prévu ?
Oui, c'était. Ah oui. On nous avait appelé pour animer, on savait pas, on nous avait laissé carte blanche, les pauvres. Et bon, voilà, on ne nous a pas rappelé l'année d'après, mais. Après, l'été dernier, au marché de Sainte-Croix, je m'étais donné comme challenge de faire un personnage différent à chaque marché. J'étais là pour animer, pour faire l'animation aussi du marché. En ce moment, celui qui sort pas mal, c'est la vieille aussi. Philomène, mais en vieille. Et celui-là, il est pas mal. Il balance bien parce que la vieille, dans tout ce qu'elle a d'irrévérencieux, et puis de toute manière, après moi, enfin, tu vois, moi, je peux... Une sorte de liberté que lui confère la vieillesse, quoi, et qui est pas mal, d'impertinence. Donc voilà, ça, je raconte Le Petit Chaperon Rouge, notamment. Les Contes de ma mémé, version un peu trash, quoi, un peu primitive des contes. Voilà, raconté par Mémé Philomène. C'est pas mal.
Et puis L'autre et moi, ça c'est quand même le spectacle que tu fais majoritairement tourner.
Il est tout frais, ce spectacle. En fait, l'année dernière, avec Gilles Roy, on a fini de créer ce spectacle.
Gilles Roy à la batterie, ouais. Percussion.
Et on en a fait un autre aussi pour la plus jeunesse, c'est Le Voyage d'Hippolène. Et donc L'autre et moi, en fait, il a été fini là au printemps.
Ah oui.
Avec les costumes.
Donc je disais n'importe quoi.
Ouais. Non, mais ça fait 4 ans en fait que je planche dessus et il sort. Et pour moi là, ce qui va se passer au théâtre de Die le 12 décembre à 20h, c'est pour moi c'est la sortie officielle. Voilà, c'est la sortie dans des belles conditions, quoi, des belles conditions de salle. Un beau plateau, belle régie, etc. Donc pour moi, c'est la sortie officielle, c'est la bouteille de Clairette cassée sur le navire. pour que ce spectacle prenne son envol.
Alors, tu citais Muriel, c'est ça ?
Alors, en fait, Muriel Masson, connue plus sous le nom de Malèle ici dans le Diois, c'est elle qui a été... qui m'a aidé à l'écriture, à faire cette introspection nécessaire de pourquoi j'ai envie de raconter ces histoires-là. Ça va, ça a été intense. J'ai été chez elle en Bretagne. Ça a été des bonnes séances d'écriture et d'introspection. Et puis ensuite, il y a Katia Aluse, qui habite maintenant à Grane, qui fait du théâtre et du cirque aussi, qui est venue nous donner un coup de pouce pour le redémarrage de cette histoire, puisque Muriel est restée en Bretagne, moi je suis restée ici. Enfin voilà, on ne travaillait plus ensemble. Donc Katia est venue nous repunchiser tout ça. Donc ça a été la deuxième écriture, on va dire, plateau.
Quand tu dis nous, avec Gilles Roy déjà ?
Avec Gilles, voilà. Ça, dans la première phase, il n'y avait pas Gilles, c'était une chanteuse qui était en Bretagne. Donc la deuxième phase, j'ai fait appel à Gilles et puis à Katia qui est venue nous aider là-dessus. Ça, on avait fait une mise à disposition au théâtre il y a 2 ans, en janvier, et on l'avait joué du coup la première version de ce spectacle, certains l'ont vu. C'était bien, je pense que voilà, c'était déjà un beau travail, mais moi c'était pas abouti, c'était pas comme ça vraiment que je le voulais ce spectacle. Donc on a continué à bosser. Et là, j'ai fait appel à Jean-Christian Guibert, qui n'est pas d'ici, qui est de Fort-Calquier, qui est clown, la compagnie Salula. J'ai compris longtemps après que ça faisait Salula Compagnie.
C'est très bon.
Il est clown. Et donc, on a fait une écriture plateau, ce que j'appelle une écriture plateau, c'est-à-dire que tu te mets direct sur le plateau et tu te démènes avec de l'impro, avec des mots, avec tes personnages pour voir... Ce qui est valable, quoi. C'est une écriture, du coup, très dynamique, plus proche du clown. Voilà, moi, c'est ce que je voulais. C'était la distance qui me manquait dans la forme d'avant, où on tombait quand même un peu dans le psychodrame, qui était bon, mais j'avais envie de ce décollement, quoi.
Qu'on se marre plus.
Ouais, ouais. J'aime bien qu'on aille toucher les zones où ça fait quelque chose, et puis direct après tu ris parce que
faut lâcher.
Parce qu'il faut lâcher, que voilà.
Cette introduction en te faisant présenter un petit peu tous tes personnages aussi pour dire que tu aimes beaucoup te costumer, tu l'as dit avec Claudine aussi d'ailleurs. Est-ce que tu utilises aussi tous ces artifices là dans l'autre et moi?
Alors, dans le spectacle L'autre et moi, donc c'est la conteuse qui arrive, qui ne voulait pas être conteuse, qui voulait être comptable d'ailleurs. Elle arrive, donc elle a un costume très, très strict.
Serré. Hein,
on le voit chignon haut. Sur l'affiche. Hein, voilà, le foulard raide, le chignon haut. C'est Sabina Kumling qui est habitée dans le Diois pendant 1 an ou 2, là, qui est repartie en Belgique, qui a fait les costumes. Et elle joue son propre rôle, puisqu'elle vient raconter des histoires. Mais de temps en temps, les histoires s'emparent d'elle. Donc, elle va être amenée à jouer d'autres rôles. Tout ça, ça va la bousculer. Ce qui fait que peut-être que le foulard va sauter, parce qu'au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Elle a chaud et que pouf, voilà, la veste va s'ouvrir. Elle va enlever la veste. Je m'arrête là. Hein, Non, ce n'est pas un effeuillage auquel vous allez assister. Et du coup, elle va disparaître un moment, mais je ne veux pas tout vous raconter. Et effectivement, on la voit donc jouer différents personnages, des fois avec le même costume. On comprend que ce sont des personnages différents. Puis ce costume-là, de base, va évoluer, va se métamorphoser, va évoluer, puis pour arriver à quelque chose de complètement différent de ce qu'il y avait au début.
Quand on parle aussi d'une forme théâtrale, et pourquoi pas dans le théâtre de Dick, tu disais les bonnes conditions, alors utilises-tu aussi un décor, sans même trop nous en dévoiler, un jeu de lumière particulier? Et puis parle-nous de l'apport de Gilles Roy.
Alors le décor, c'est très sobre, c'est un fond noir.
Parfait.
Et une chaise. Ouais, j'ai fait pendant longtemps du théâtre de rue avec une grosse compagnie, le cirque Pousson, le charrier, la ferraille, du matériel. Bon, maintenant, j'ai une chaise et un paravent, c'est bien. Donc voilà, ça, c'est le décor. La lumière, elle a été créée par Florian de Sépibus, qui est le neveu d'Olivier de Sépibus, que nous connaissons bien, et qui habite à Fort-Calquier. Ouais, on avait fait une résidence à Manosque pour faire cette création lumière là. Et puis ça a été repris par Emmanuel Pingot, qui est mon compagnon et qui est un bricoleur de génie et qui se met à bidouiller la lumière. Et par Marco, qui nous accompagne aussi sur ce projet. C'est vrai que la lumière, c'est elle qui va vraiment souligner l'espace et aider à la compréhension de ce qui se passe, marquer les espaces, etc. Et puis Gilles, eh ben déjà, moi j'avais fait appel à Gilles. Donc, comme je disais, la première qui faisait la musique, c'était une chanteuse qui était en Bretagne, là. Et pour reprendre ça, moi je faisais le projet Jeune Public avec Gilles, qui jouait de la contrebasse sur le projet Jeune Public, le voyage d'Hippolène. Puis ça faisait longtemps que je me disais quand même, c'est vachement bien de raconter avec une batterie, parce que j'avais déjà essayé lors de fêtes, de bœufs, comme ça, je racontais. Et puis dès que je croise des musiciens, moi je joue pas de musique, je raconte des histoires, donc je vois comment je peux m'amuser aussi avec eux. Et donc la batterie, ça m'avait bien plu. Du coup, j'ai fait appel à Gilles, et puis j'aime beaucoup Gilles. Je trouve que c'est un chouette partenaire. On se régale vraiment, quoi, tous les deux. Ça communique bien, tout ça. Il a une belle écoute de ce qui se passe. C'est un batteur sensible, comme on dit. Donc, il accompagne tout le récit à la batterie. Et puis, il fait plus qu'accompagner le récit. Vous allez voir. Mmh.
C'est quand même étonnant parce que la batterie, oui, on s'imagine cet instrument qui fait beaucoup de bruit, qui a un gros potentiel avec plusieurs tomes, plusieurs cymbales, ouais. et quelqu'un qui parle à côté.
Ouais, c'est pas le xylophone, ni la harpe,
voilà.
Mais bon, ces derniers temps, c'est vrai que le conte, ça a vachement évolué, il se rock'n'rollise depuis quelques temps, un peu depuis... Yannick Jolin et d'autres confrères à Yannick Jolin. Et ça peut être du slam, le conte, ça peut être plein, ça peut être très rythmique. En tout cas, lui, il a une manière d'accompagner. C'est vrai que c'est une batterie rock. On arrive sur scène, elle est clinquante, rock and roll. Et puis, il a une manière d'en jouer qui est vraiment surprenante par rapport à ce à quoi on s'attendrait.
Et sans dévoiler, c'est un accompagnement que tu qualifierais plutôt de bande-son, musique de film par exemple, qui suit tout le temps, ou alors c'est quelque chose qui vient par moment appuyer, je pense au clavier qu'il y avait dans Raymond Devos, qui ne va pas jouer tout le temps, mais qui tout d'un coup viendra mettre des phrases.
Elle est quand même très 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 présente, la batterie. Il y a un accompagnement constant, ouais. Ouais, il y a des moments où il ne fait rien, oui. Il est là, il dort un peu, il vapote. <Non. rire> vous allez voir, quand il y a un moment donné où vraiment la batterie a une part, a vraiment enfin la promesse tant attendue de voir une batterie comme ça, rock'n'roll, arrive quoi. Mmh. Yeah, et là, ça dépote, ça fait du bien.
On est toujours obligé de laisser son solo au batteur en fait, hein. C'est ouais. Que qui se passe, ouais. C'est bon. Eh bien, Agnès Dauban, nous arrivons au terme de cette interview qui a été riche et fournie. On en a appris un peu plus sur toi, enfin en tout cas moi, c'est mon cas, autour de ce spectacle L'autre et moi qui sera le 12 septembre au Théâtre de Die à partir de 20h avec ta compagnie, La Fabrique d'Histoire. Il y en a une autre cité, il me semble, à côté.
Ah, c'est l'association Badam, mais c'est l'association qui soutient les projets de La Fabrique d'Histoire.
Te reste-t-il encore des gens à remercier peut-être ?
Ben, je remercie Thaïs, justement, pour son soutien. Je remercie Virginie Cointepas, qui fait la diffusion du spectacle. J'ai fait toute une liste, je ferai mes remerciements à la fin de la première, parce que même si c'est beaucoup des solos que je fais, je me sens, moi, très accompagnée. Et tout ce que je fais, je ne pourrais pas le faire sans tous les gens qui m'entourent, qui me font sourire, qui me donnent l'occasion de m'exprimer comme Erdiwa. Ah.
Eh bien, merci Agnès. Donc,
merci à toi.
Rendez-vous à 20h ce 12 décembre, L'autre et moi.
Venez nombreux.
À bientôt sur cette antenne.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.